Alors donc merci de me donner la parole aujourd'hui pour m'exprimer sur ce sujet passionnant qui est le développement des TIS dans l'enseignement supérieur. Brigitte vient d'amener un éclairage du point de vue de la recherche. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'amener un éclairage qui est tout à fait dans la complémentarité et qui, lui, consiste à exprimer plutôt une expérience issue du terrain. Alors, je pense que ça sera intéressant ensuite de se demander si ce point de vue recherche et ce point de vue du terrain se rejoignent à certains moments. En tout cas, je pense que ça serait plutôt rassurant parce que ça serait bien qu'on puisse en même temps y penser et agir. Je vais partir d'observations de terrain. Et donc, comme je vais partir d'observations, je voudrais simplement situer le contexte d'observation pour que ça ait un sens. Donc, ce sont des observations qui ont été faites dans l'université dans laquelle je travaille, l'université Toulouse 3, dans laquelle il y a un service qui est un SUP, qui est identifié pour le développement, dont la mission identifiée est le développement des TIS, et donc l'accompagnement des enseignants pour ce développement des TIS. C'est un service qui fonctionne avec une équipe mixte où travaillent ensemble des enseignants-chercheurs et des ingénieurs. Et nous basons sur une vision croisée qui s'appuie sur trois pôles, la pédagogie, la technologie et les résultats de la recherche. Et l'équipe travaille également dans une démarche d'accompagnement de proximité des enseignants. Donc, pour que vous puissiez donner un sens un petit peu aux résultats d'observation que je vais vous proposer. Alors, je vous livre là simplement deux indicateurs, simplement pour donner une idée des tendances actuelles qu'on observe sur le terrain et dans cette université-là. Donc, dans ce contexte que je viens de préciser, si on regarde un indicateur qui est le nombre de connexions mensuelles à la plateforme de formation qui est la nôtre, c'est-à-dire qui est une plateforme Moodle, sur le laps de temps court depuis lequel, sur lequel nous avons collecté ces indicateurs, parce qu'il y a peu de temps qu'on les collecte. Donc, simplement, pour dire très rapidement, 2008-2009 à 2009-2010, à peu près doublement des connexions sur la plateforme. Et pour le chiffre 2010-2011, qui est une projection à partir du premier trimestre, on voit qu'on devrait arriver sans difficulté à doubler à nouveau ce nombre de connexions. Donc, simplement, pour dire que ce qu'on observe actuellement, c'est que la plateforme de formation est de plus en plus utilisée. Et un deuxième indicateur qui me paraissait intéressant à vous livrer, c'est le nombre d'enseignants qui s'impliquent dans des projets pour créer leurs propres ressources TIS. Au-delà d'utiliser la plateforme, ces enseignants-là s'inscrivent dans des projets pour créer leurs propres ressources. Et donc là aussi, ce qu'on voit, c'est un nombre d'enseignants qui est en progression, puisque entre 2009 et 2010, on a observé qu'à peu près ce nombre d'enseignants a à peu près doublé. Alors, ce n'est pas les chiffres en eux-mêmes qui sont intéressants, c'est simplement pour dire que notre constat de terrain, c'est que les usages TIS actuellement sont en développement, même s'il y a encore beaucoup de marge de progression. Deuxième résultat d'observation que je voudrais vous faire partager, ce sont des retours des étudiants. Alors, ce qui est proposé là, ce sont des paroles d'étudiants qu'ils nous ont livrées lorsqu'on leur a demandé d'évaluer des QCM, d'évaluation formative, qui étaient mis à leur disposition. Donc, ces étudiants leur proposent des QCM d'évaluation formative, ils les utilisent, et puis derrière, on leur demande d'évaluer cette ressource-là. Et donc, ce que je vous livre, là, c'est un petit peu en vrac, hein, mais c'est pour avoir un petit peu une idée générale de ce qu'ils en disent. Leur retour, que j'ai classé en deux catégories, des points positifs, des points négatifs. Donc, ce que disent les étudiants à propos de ces dispositifs, c'est « ça nous est utile parce que ça nous permet de voir où on en est, ça nous permet de comprendre nos erreurs en regardant la correction, ça nous permet de nous entraîner ». Ça nous permet de travailler chez soi quand on veut à notre rythme et ça nous permet de progresser. Voilà quelques exemples de retours positifs des étudiants. En parallèle, on voit aussi des retours qui sont plus critiques. Et par exemple, certains étudiants qui vont dire « ce qui est expliqué n'est pas forcément ce qu'on n'a pas compris ». C'est peut-être le problème du mur là que signalait tout à l'heure Alain Coulon. Aucun prof pour expliquer les points non compris. Certains signalent aussi comme une difficulté d'être devant un écran pour travailler. Une difficulté aussi pour trouver de la motivation pour s'y mettre. Et finalement, certains disent, c'est pas inutile, mais on devrait avoir, en plus de ces ressources en ligne, des TD. Donc, on voit que le retour des étudiants, il est nuancé. Et finalement, ça nous amène à dire, actuellement, sur le terrain, on fait deux constats. Le premier constat, c'est qu'il existe des enseignants motivés pour faire le choix d'utiliser des TIS, et même au-delà de ça, s'engager et persister dans l'utilisation des TIS, il y en a, puisqu'on les voit, ils viennent au service, même si ça n'est pas tous les enseignants, ce n'est pas tout ce que je veux dire, mais en tout cas, il en existe. Et le deuxième constat, c'est que la plus-value estimée par les étudiants est variable. Alors ces deux constats m'ont amené un petit peu à me poser des questions parce que je trouve qu'ils sont un décalage par rapport à un discours qu'on entend beaucoup et qui dirait, d'une part, les enseignants universitaires sont réfractaires aux TIS, par contre, les étudiants sont enthousiastes quant à l'utilisation des TIS. Et ces deux constats qu'on fait, nous, sur le terrain, ils sont décalés par rapport à ces idées qui traînent un petit peu partout, qu'on entend pas mal, quoi. D'où l'idée de se dire, hein, est-ce que si on observe ce décalage, c'est pas parce que jusqu'à présent, on n'a pas posé correctement la question du développement des TIS ? Et d'où ma proposition d'essayer de poser le problème autrement qu'on l'a posé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, souvent, ce problème du développement des usages TIS, on le pose en disant comment inciter les enseignants à utiliser les TIS. Et ça, il me semble que c'est une question qui a trois caractéristiques. Elle est généralisatrice, parce qu'on parle des enseignants en général, on parle des TIS en général, alors qu'il y a tellement de situations d'enseignement différentes, ça vide un petit peu peut-être la question de son sens, cette généralisation. C'est une question qui est en trait technique, parce que ce qu'on vise directement, c'est les technologies d'information et de communication. Et c'est une question qui est fermée, parce que quand on pose la question comme ça, ça induit quand même derrière, et il faudrait que les enseignants utilisent des TIS. Donc il me semble que peut-être pourrait-on poser la question différemment et retourner ces trois caractéristiques en formulant une question qui, elle, serait spécifique à entrée pédagogique et ouverte. Et donc la formulation que je vous propose, c'est comment aider les enseignants à s'interroger, un, sur leurs besoins pédagogiques par rapport aux potentialités TIS, et deux, sur le retour de leurs étudiants. Et tout ça dans un contexte spécifique pour chacun de leurs enseignements. Donc on est passé à une question spécifique, parce qu'elle se pose dans un contexte donné pour un enseignant donné qui fait un enseignement donné. Ça devient une question entrée pédagogique, parce que la première chose qu'elle vise, cette question, c'est les besoins pédagogiques. Et une question ouverte, parce que rien ne dit que lorsqu'un enseignant se posera cette question, il répondra automatiquement « Oui, les TIS répondent à mon besoin pédagogique actuel ». Certainement que dans certains cas, oui, peut-être que dans d'autres cas, non. Alors, il me semble que quand on pose la question de cette manière-là, d'abord, on voit que ça amène à une question. Déjà, elle fait quatre lignes, alors que la première faisait une ligne. Donc, déjà, la formulation est plus compliquée. Et je pense que ça permet, en effet, de prendre en compte la complexité de cette question par une dimension essentielle pour pouvoir la traiter correctement. Et il me semble qu'à ce moment-là, ça ouvre la porte à l'exploration de modèles qui existent déjà et qui peuvent nous aider à rendre intelligible cette complexité et à essayer de, du coup, la comprendre et donc, du coup, de construire des stratégies. Alors, j'ai cité quelques modèles, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais parce qu'il me semblait que c'était intéressant quand même de montrer qu'en effet, il en existe des modèles qui peuvent être utiles dans ces circonstances. Des modèles, d'abord, pour penser le déclenchement. Comment est-ce qu'on peut faire pour amener un enseignant qui n'est pas du tout utilisateur des TIS à commencer à s'en servir avec le modèle TAM, de technologie acceptance modèle, qui est très utilisé dans le contexte des TIS, mais qui me paraît intéressant parce qu'il met il met l'accent sur les rôles centraux de l'utilité et de la facilité d'utilisation perçue par l'enseignant. C'est-à-dire, est-ce que l'enseignant perçoit une utilité à utiliser les TIS et est-ce qu'il perçoit que ça va être facile d'utiliser les TIS ou bien très compliqué? Ça va jouer très certainement dans sa décision de rentrer dans les TIS ou pas. Un deuxième modèle, c'est la théorie à temps de valeur, qui dit que la motivation est d'autant plus élevée que l'acteur attend des résultats et qu'en plus il accorde de la valeur à ses résultats. Donc peut-être se poser la question en se disant si certains enseignants ne décident pas d'utiliser les TIS, peut-être qu'ils en attendent peu de résultats ou peut-être qu'ils accordent peu de valeur aux résultats qu'ils pourraient obtenir. Et un troisième modèle qui me paraît intéressant dans ce contexte, c'est la théorie sociale cognitive, avec l'idée que les personnes sont à la fois produits et productrices de leur environnement. Brigitte a évoqué un petit peu cette idée tout à l'heure, qui pourrait nous amener à penser, pour le problème qui nous intéresse, que c'est intéressant de jouer simultanément sur l'environnement, sur les acteurs de l'environnement et sur leur comportement, sur ce triangle-là de la théorie sociale cognitive, de façon à essayer de faire avancer les choses. Et ça pourrait amener à dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que l'environnement soit impeccable pour commencer à faire des TIS, mais qu'on peut essayer de faire avancer ces trois pôles du triangle dans un même mouvement, sachant que ces mêmes modèles disent aussi que la motivation se construit aussi en agissant et en marchant. Nous disposons aussi également de modèles pour penser la persistance, parce qu'une deuxième difficulté qu'on constate sur le terrain, c'est que lorsqu'un enseignant a commencé à utiliser les TIS, il ne continue pas forcément. Et parfois, la première expérience TIS, elle va l'amener à conclure que c'est trop compliqué, c'est trop mangeur de temps, etc. Et donc, je ne continue pas. Donc, il y a aussi à réfléchir sur la dimension persistance de l'engagement de l'enseignant, avec des modèles comme... Eh bien, le socioconstructivisme, là, je suis allée chercher des choses en sciences de l'éducation et en pédagogie, parce que dans un service de pédagogie, on est quand même bien placé, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être très utiles. Le socioconstructivisme, donc, en envisageant l'enseignant comme acteur de son développement professionnel. Également, des modèles qui mettent en avant l'approche en profondeur, avec l'idée, là, qu'amène Romainville en particulier, mais c'est pas le seul, que les motifs qui nous animent ont une influence sur les résultats qu'on va obtenir. Et par exemple, pour le contextualiser à ce qui nous intéresse aujourd'hui, un enseignant qui vient au TIS pour un motif tel que je dois utiliser les TIS parce que ma composante m'impose de le faire, un motif de type superficiel, ne va pas obtenir les mêmes résultats qu'un enseignant qui viendrait au TIS pour un motif du type « Eh bien, moi je veux utiliser les outils TIS parce que je veux que mes étudiants apprennent mieux ». Donc là aussi, je pense qu'il y a des choses à réfléchir sur comment motiver les enseignants et sur quel levier jouer compte tenu des résultats qu'on veut obtenir. Le troisième modèle que je voulais signaler ici, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, avec l'idée que, entre autres, hein, parce que ce modèle est extrêmement riche, mais l'idée que c'est en observant des réussites dans son expérience personnelle qu'on peut alimenter sa motivation pour continuer. Ce qui va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il me semble que c'est intéressant de commencer à faire marcher les enseignants dans des expériences TIS pour construire en marchant leur motivation. Et puis je terminerai avec les modèles, hein, parce que on a également des modèles à notre disposition pour penser l'évolution globale du développement des TIS, de façon à ce qu'on ne développe pas des TIS pour développer des TIS, mais qu'on développe des TIS pour améliorer à la fois les apprentissages et l'enseignement. Il me semble intéressant d'aller voir du côté de modèles qui représentent tout ce qui est système complexe, puisque j'ai dit tout à l'heure, il me semble intéressant de poser la question dans toute sa complexité et en prenant bien en compte cette complexité. Et donc en particulier des modèles qui s'intéressent au système complexe, en se disant que l'enseignant n'est pas isolé, mais l'enseignant est un acteur qui a une fonction, une activité d'enseignement, qui vise des finalités, la formation des étudiants, qui évolue dans un environnement, dans un contexte, Brigitte en a parlé aussi tout à l'heure, et sachant que tout ça est en perpétuelle transformation, évolution. Et en ce qui concerne justement l'évolution, un autre modèle certainement très utile, et qui là aussi est très souvent cité dans le domaine des TIS, qui est la courbe de Rogers, et qui pourrait par exemple nous faire penser qu'on pourrait mettre en place des stratégies s'appuyant sur les innovateurs et les premiers adeptes, de manière à embarquer une majorité précoce qui, elle-même, va faire basculer la majorité tardive. Bon, il y a là certainement aussi des pistes de réflexion pour trouver des stratégies dans le temps pour avancer un petit peu dans ce développement des usages des TIS. Alors, bon, je n'ai fait que effleurer ces modèles. En fait, ce que je voulais faire, là, c'était montrer que si on choisit de poser la question du développement des TIS dans toute sa complexité, alors on a à notre disposition tout un tas de modèles pour nous aider à penser cette question-là en profondeur. Et c'est un chantier qui est ouvert à nous et qui me paraît un chantier essentiel si on veut choisir les bonnes directions, les directions pertinentes, les directions efficaces du point de vue des apprentissages dans cette question du développement des TIS. Alors ça, c'est un chantier qui est devant nous et qui sera certainement un chantier de longue haleine. Et à part ça, en même temps, qu'est-ce qu'on fait tous les jours sur le terrain? Parce que, en même temps, c'est important d'avancer. Alors, ce que je voudrais vous proposer, là, c'est... Je viens de parler de tout un tas de modèles qui sont issus des sciences de l'éducation et plus largement des sciences humaines et sociales. Pour basculer sur le côté terrain, je suis allée chercher plutôt dans ma formation initiale, qui est une formation en sciences inhumaines. Et donc, je vais vous présenter ça avec une équation et un triangle. Alors, une équation qui essaye, c'est certainement très maladroit, qui essaye de formaliser de manière symbolique l'investissement en TIS des enseignants. Alors, je pense que tout enseignant, au moment où il se pose la question de s'engager dans l'utilisation des TIS, il est amené à faire une balance entre qu'est-ce qui m'intéresse dans les TIS, quels avantages je vais en retirer, et quels sont les inconvénients, quels sont les obstacles que je vois dans l'utilisation des TIS. Et c'est au vu de cette balance que les enseignants vont décider ou pas de s'engager dans les TIS. Alors, cette balance, je l'ai représentée à travers un rapport, donc, entre ce qui, en haut, représente ce qui peut être des éléments moteurs pour l'enseignant, ce qui peut décider l'enseignant à utiliser les TIS parce que ça l'intéresse, et en bas, les éléments qui sont plutôt des éléments de frein, avec l'idée que si on veut augmenter l'investissement, on a plein de manières de jouer là-dessus pour augmenter cette formule-là. Alors, en haut, les éléments moteurs. Un élément moteur qui nous paraît complètement central, c'est l'utilité perçue par les enseignants quant à l'usage de ces outils TIS. Et cette utilité perçue, elle peut également être étayée par le sentiment d'efficacité. Donc, ce sont ces deux leviers-là, il y en a certainement plein d'autres, hein, mais qui nous paraissent importants à actionner pour aider les enseignants et les accompagner, du moins, dans le développement des usages TIS. En bas, donc, j'ai mis tout ce qui est éléments d'obstacles, de freins, qui pourraient retenir l'enseignant dans son investissement en TIS. Et ça répète ce qui a été dit à plusieurs reprises depuis ce matin, puisque ce qu'on sait tous. Hein. Premier problème, la surcharge de travail globale d'un enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur a plein de choses à faire. Il faut aussi qu'il fasse des TIS. Il faudrait aussi qu'il fasse des TIS. La non-valorisation actuelle des activités d'enseignement, donc également des TIS. Aujourd'hui, on peut espérer que ça va évoluer. Et souvent des problèmes d'insuffisance d'équipement, des salles d'enseignement, mais aussi d'accès aux ressources en ligne pour les étudiants. Bon, tout ça, c'est quelque chose de très connu. Alors, ce qui paraît intéressant, c'est de dire que cette équation, elle se pose pour chaque enseignant de manière individuelle. Mais pour autant, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque enseignant n'évolue pas isolément, il est entouré par un contexte. D'abord, un contexte social, qui est un niveau tout à fait global, dans lequel on peut englober le monde éducatif, les jeunes, les politiques, les médias. Ce contexte social a un discours à propos des usages TIS et un discours qui actuellement est plutôt positif. Et ce discours peut influencer l'utilité perçue par chacun des enseignants sur le terrain. J'ai mis une flèche en pointillé parce que bien que ce discours soit là depuis des années et des années, on voit bien qu'il n'a pas embarqué tous les enseignants. Donc il y a probablement un levier, mais pour l'instant ce levier n'a pas suffi à convaincre tous les enseignants d'utiliser les TIS. Ensuite, l'enseignant évolue dans un contexte professionnel, et là, typiquement, c'est une dimension locale. Donc, un enseignant, il intervient dans une ou plusieurs disciplines, et il intervient face à des étudiants. Également, dans ce contexte local, il va trouver à sa disposition des services qui vont l'accompagner dans l'usage des TIS, des services qui sont ou pédagogiques ou technologiques, ou les deux à la fois, d'ailleurs, il y a différentes modalités. Alors, ce contexte professionnel local, il nous semble, compte tenu de l'expérience qu'on vit là au service universitaire de pédagogie de Toulouse 3, qu'il y a un levier extrêmement fort du côté des étudiants. C'est-à-dire que lorsque les étudiants donnent à leurs enseignants des retours positifs sur les usages TIS qu'ils leur ont proposés, c'est un levier qui renforce énormément la motivation des enseignants. Donc il nous semble là qu'il y a un levier qui est à mettre en œuvre, recueillir les avis des étudiants de manière à ce que ça permette de nourrir quelque part la motivation des enseignants. Ce contexte peut agir via les services d'accompagnement. D'abord sur le sentiment d'efficacité des enseignants, parce qu'un enseignant bien accompagné va avoir le sentiment qu'il réussit en effet dans ses projets TIS. Et puis de manière plus indirecte sur l'utilité perçue, parce que à partir de ces services, on peut mettre en évidence, on peut montrer des expériences TIS qui paraissent pertinentes. Enfin, dernier élément de contexte, c'est le contexte institutionnel. Enfin, je ne sais pas pourquoi je le place en dernier, c'est le hasard. Contexte institutionnel, alors là, ça va du niveau local jusqu'au niveau global, parce que pour l'enseignant, son contexte institutionnel, c'est aussi bien son université que le ministère, que l'ARS, que l'Europe, etc. Ce contexte institutionnel, il peut agir très clairement sur tous ces freins que j'ai mis en bas de ma fraction, la question de la charge de travail, la question de la valorisation de l'enseignement, la question des équipements, mais je pense qu'il est en train d'y travailler. Donc, ça, c'est un dernier élément qui est aussi important. Alors, bon, c'est un essai, comme je disais tout à l'heure, très certainement maladroit que j'ai fait pour mettre en équation l'investissement en TIS. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que ça permet malgré tout de voir qu'en effet, le problème est complexe, qu'on peut jouer sur plein de leviers différents. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, d'avoir en tête, c'est que cette équation, elle est à poser dans une université X à un instant T. Et qu'il faut cela reposer régulièrement et en fonction des contextes et du stade de développement des TIS dans une université donnée, on ne va pas jouer sur les mêmes leviers, on ne va pas faire les mêmes choses. À partir de ce schéma qui met en évidence l'importance du contexte et sa complexité, je pense qu'on met aussi là en évidence un triangle qui est un triangle clé, qui est en fait se focalise là sur les acteurs de terrain qui, au quotidien, travaillent à utiliser les TIS, à les mettre en place, etc. Donc, ce triangle, il s'appuie sur les enseignants, leur accompagnement et les étudiants, et avec chacun des rôles différents. Du côté des enseignants, clairement, c'est l'enseignant qui est décideur de son engagement dans l'usage des TIS. Et c'est lui aussi qui est décideur de la manière dont il va utiliser ses TIS. Ça me paraît essentiel de reconnaître ça, parce que ça n'est que si c'est l'enseignant qui décide que les choix peuvent être pertinents, parce que c'est lui qui connaît ses besoins pédagogiques et son contexte d'enseignement. Et c'est également si l'enseignant décide qu'on peut penser que son engagement sera solide. Il me semble qu'actuellement, on a un peu oublié que chaque enseignant a capacité à décider s'il veut utiliser les TIS et comment il veut les utiliser. Ensuite, du côté des enseignants aussi, le scénario pédagogique, c'est aux enseignants de construire les scénarios pédagogiques. Et je ne fais que répéter ce que dit Marcel Lebrun en disant « une bonne ressource pédagogique, c'est avant tout un bon scénario pédagogique ». Et aussi une bonne réalisation, mais avant tout un bon scénario pédagogique, ça c'est du côté des enseignants. Et justement, si les enseignants ont besoin de construire des scénarios pédagogiques solides, ils vont avoir besoin pour ça de s'appuyer sur un cadre conceptuel. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'aller chercher les résultats produits par la recherche en sciences de l'éducation. Ils vont avoir besoin des modèles d'enseigner, des modèles d'apprendre. Ensuite, du point de vue de l'accompagnement, donc je donne là la vision que nous avons dans notre équipe de l'accompagnement, qui n'est peut-être pas partagée universellement, mais pour nous, il nous semble que c'est essentiel de proposer un accompagnement qui se situe au niveau local. Niveau local, ce qui veut dire une proximité géographique, bien sûr, il ne faut pas avoir à prendre le métro pour rencontrer l'équipe d'accompagnement, mais aussi une proximité culturelle. C'est-à-dire que si l'accompagnement est au niveau local, les enseignants vont pouvoir rencontrer dans ces services d'accompagnement des personnes qui connaissent leur contexte, qui connaissent la culture locale, suivant qu'on ait une fac de lettres, une fac de sciences, une fac de etc. Et donc, ça permet d'établir un contact beaucoup plus rapidement entre les structures d'accompagnement et les enseignants. De notre point de vue, l'accompagnement doit également respecter les contextes. Ce que je veux dire là, c'est que chaque fois qu'un enseignant ou une équipe pédagogique vient nous trouver avec une question, un besoin, il faut considérer que ce besoin ou cette question est liée à un contexte particulier et nous avons à le prendre en compte. Et surtout pas à proposer des solutions préformatées qu'on aurait déjà sur étagère. Également, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, on a constaté qu'il fallait alerter les enseignants sur un point important qui est il faut favoriser la cohérence entre le présentiel et la distance. On s'est rendu compte que lorsque, parfois, mais souvent, lorsque des enseignants s'engagent dans un travail de création de ressources TIS, ça leur demande tellement d'énergie, tellement de temps, qu'ils ne prennent pas le temps de l'intégrer au reste du dispositif. Et donc, finalement, il crée une ressource qui est à côté du dispositif. Et quelquefois, ça crée des surprises un peu difficiles pour eux, parce que parfois, le résultat, c'est que du coup, les étudiants n'utilisent pas ces ressources. Donc, il nous semble qu'actuellement, enfin, en tout cas, voilà, du lieu d'où je parle, il y a besoin d'attirer l'attention des enseignants là-dessus. Pensez vos ressources TIS comme un élément d'un dispositif de formation global. Troisième sommet de ce triangle, les étudiants. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Nous, il nous paraît essentiel de recueillir systématiquement le retour des étudiants. C'est-à-dire, chaque fois qu'on propose une ressource TIS aux étudiants, leur demander « Est-ce que ça vous a été utile ? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre ? Est-ce que ça vous a aidé à apprendre ? etc. » Quel point positif ? Quel point négatif ? D'abord parce que ce qu'on vit, nous, au quotidien, c'est que ces retours d'étudiants sont extrêmement valorisants et motivants pour les enseignants qui sont embarqués dans ces démarches d'expérimentation des TIS. Et également parce que c'est à notre sens la seule manière de faire des choix pertinents, parce que c'est quand même les étudiants qui sont utilisateurs de ces ressources qu'on va produire. D'ailleurs, de ce point de vue-là, les structures d'accompagnement, les services d'accompagnement peuvent aussi jouer un rôle, puisque ça peut être ces services qui accompagnent les enseignants qui se chargent de recueillir les avis des étudiants, de manière à ce qu'on ne donne pas encore une tâche supplémentaire à l'enseignant dans ce contexte. Alors, je voudrais élargir un petit peu la vision que j'ai donnée jusqu'à maintenant, qui était une vision locale de notre équipe, sur le point accompagnement, en donnant là le point de vue du réseau des services universitaires de pédagogie. Alors, le réseau des services universitaires de pédagogie, il s'est constitué de manière informelle en 2005, et récemment, nous avons souhaité le structurer un peu mieux, l'organiser un peu mieux, et donc nous lui avons donné la forme d'un consortium, et nous avons élu un comité de pilotage, donc j'ai la chance, je dirais, de présider. Alors, le réseau des SUP, l'objectif, c'est se retrouver dans ce réseau pour partager à la fois des expériences de terrain, puisque nous sommes tous des acteurs de terrain, et des réflexions à propos donc du développement de services universitaires de pédagogie. Et également, notre objectif, c'est d'aider d'autres universités à créer ce type de service, parce que ça nous paraît complètement central actuellement dans les universités, bon, en lien avec tout ce qui a été dit avant sur l'importance de la pédagogie dans les universités, ou du moins celles qu'on voudrait lui voir reconnues. Alors, voilà en quelques points l'avis du réseau des SUP, enfin la position actuelle qui peut évoluer du réseau des SUP, sachant que les SUP, donc, eux, se positionnent sur le sommet accompagnement du triangle que j'ai donné tout à l'heure. Donc le premier point, c'est que la plus-value des TIS n'est pas automatique. Le second, c'est que le retour des étudiants est une information essentielle. Le troisième concerne l'accompagnement des enseignants, qui est un point qu'on réfléchit beaucoup dans le réseau des SUP, puisque c'est vraiment le cœur de métier des SUP. Le réseau des SUP voit l'accompagnement des enseignants comme une démarche de co-construction, et surtout pas de prescription, comme une démarche respectueuse des contextes de chaque enseignant et de chaque enseignement, et comme une démarche qui inclut de la formation pédagogique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les enseignants puissent construire des scénarios pédagogiques solides, ils ont besoin de se référer à des modèles d'enseignement, d'apprentissage, que souvent ils ne connaissent pas. Donc il nous semble qu'il est du rôle de ces structures d'accompagnement de proposer des formations pédagogiques. Ensuite, évidemment, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de valoriser l'activité d'enseignement dans l'usage des TIS. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça, c'est une question qui est en train actuellement d'évoluer. Et dernier point, qui peut-être pour résumer un petit peu la position du réseau des SUP, qui se veut une position modeste dans ce problème difficile. Le développement de l'usage des TIS, c'est un problème complexe qui touche à la professionnalité des enseignants. Donc à la fois un problème complexe, on a vu que il y avait plein de paramètres, plein de dimensions et tout un tas de contextes à prendre en compte. Et puis également un problème profond, parce qu'il touche au métier des enseignants. Et donc, en ce sens, c'est peut-être relativement normal qu'on ne trouve pas ni de solution simple, ni de solution rapide. Donc ça, c'était pour me faire l'écho là de ce qu'est le point de vue du réseau des SUP. Et puis, je voudrais terminer mon intervention sur quatre questions. Alors, j'en ai sélectionné quatre, j'aurais pu en trouver beaucoup plus. Quatre questions qui, actuellement, nous paraissent des questions auxquelles on a vraiment à réfléchir en profondeur et en même temps qui sont des questions difficiles. Donc ce sont des questions perçues du terrain. La première question que nous nous posons, c'est quel est le point de vue de la recherche quant à l'efficacité des TIS pour les apprentissages? Et ça, ça rejoint ce qui a été dit déjà à plusieurs reprises ce matin. Nous avons besoin de résultats de recherche sur l'efficacité des TIS pour les apprentissages de façon à éclairer les choix, alors à la fois les choix de scénarios pédagogiques et également les choix d'outils technologiques. Et ça, actuellement, ça manque énormément. Une autre question sur laquelle nous butons souvent, quel degré d'implication des enseignants dans la réalisation des ressources TIS? Alors, ce que je veux dire là, c'est que on a à choisir entre soit des outils suffisamment simples pour que les enseignants puissent apprendre à s'en servir et qu'ils puissent l'utiliser de manière autonome, ce qui a le grand avantage de leur permettre de modifier leurs ressources dès qu'ils en ressentent le besoin. Et en pédagogie, c'est souvent. Donc, entre des ressources de ce type-là et des ressources plus sophistiquées qui vont nécessiter la contribution d'ingénieurs développeurs professionnels de la chose et dont les enseignants ne peuvent pas s'emparer parce que c'est des outils trop sophistiqués. Et il y a une difficulté là à trouver où est-ce qu'on place le curseur pour à la fois laisser quand même de l'autonomie à l'enseignant qu'il n'ait pas besoin à chaque fois qu'il veut modifier une ressource de passer par un service et également, malgré tout, arriver à développer des ressources relativement sophistiquées qui vont proposer des fonctionnalités intéressantes, etc., mais au prix d'outils que l'enseignant ne maîtrise plus. Ça, c'est une question qui, pour nous, est difficile. La troisième question, qui je la trouve aussi difficile, mais je trouve toutes ces questions difficiles, c'est mutualisation ou transfert. Alors, on est beaucoup encouragé à mutualiser les ressources TIS et on comprend bien que en effet, si on pouvait mutualiser les ressources TIS, ça serait une bonne chose, parce que produire des ressources TIS, c'est très coûteux en énergie, en temps et en argent. Malgré tout, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que cette mutualisation, elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a beau dire aux enseignants, vous avez des ressources à votre disposition, vous pouvez vous en servir, ils le font très très peu. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt envisager cette question sous l'angle du transfert? Alors, c'est pas pour rien qu'on est en pédagogie, donc le transfert vraiment tel qu'on l'entend en pédagogie. C'est-à-dire, est-ce que, bien sûr, on va pouvoir mutualiser certaines ressources, mais ça va concerner des ressources de grain fin ou des ressources dont l'objectif est illustration. Mais après, au-delà de ça, pour des ressources qui sont en dehors de ces deux catégories, comment est-ce qu'on peut tirer bénéfice quand même des expériences successives? D'où la question qu'on se pose, c'est est-ce que la seule voie possible n'est pas que la recherche étudie ces ressources-là pour dégager des principes génériques qui pourraient être réappliqués dans d'autres contextes, donc décontextualisation, recontextualisation, le principe du transfert tel qu'on l'entend en pédagogie. Alors, évidemment, c'est long et coûteux, mais il semble que la mutualisation directe de ressources, ça soit très difficile à faire fonctionner. Et la dernière question que je voudrais vous faire partager, c'est dans le contexte des formations présentielles ou hybrides, c'est-à-dire contexte de formation où nous rencontrons régulièrement nos étudiants en amphi, en TD, en TP, quelle part pour les TIS? C'est-à-dire à quel endroit est-ce qu'on va placer le curseur entre ce qu'on propose aux étudiants en ligne pour qui travaillent dans le contexte de leur travail personnel et ce qu'on veut faire avec eux au moment où on les rencontre dans le contexte du présentiel, où il y a donc rencontre entre enseignants et étudiants et entre étudiants dans le groupe. Et là aussi, mais c'est une question qui a été soulevée aussi tout à l'heure, hein, et avec l'inquiétude d'un glissement qui irait vers le tout à distance. Parce que moi, je suis tout aussi convaincue que Brigitte qu'à certains moments, et si c'est possible, parce que c'est vrai qu'il y a des... Il y a des circonstances où la formation à distance a toute son utilité. Mais dans nos universités, nous, on peut les rencontrer, nos étudiants. Et moi, je suis toute convaincue qu'à certains moments, on a besoin d'être en face à face avec eux pour les aider à comprendre certaines choses, certains concepts compliqués, etc. Répondre à leurs questions, parce que comme ils le disent très justement à propos des QCM en ligne, parfois ça répond pas aux questions qu'on se pose, etc. Voilà. Alors, je voulais terminer sur ces questions avec... l'espoir que ça va vous amener à réagir et qu'on puisse un petit peu échanger, partager autour de cette question du développement des TIS, qui est une question qui n'est pas du tout facile. Enfin, on en est tous convaincus, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pas du tout facile, mais quand même particulièrement intéressante.